Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette session de questions-réponses.
Ma grande question à chaque fois, c'est moi j'ai l'habitude d'envoyer mes photos en intégrant les photos dans le corps du mail via Google Photos. Et en discutant et avec une directrice de casting, elle me disait que malgré tout, elle aimait bien quand c'est aussi en pièce jointe. Donc en fait, maintenant, je fais les deux.
Il faut que ce soit en pièce jointe parce que si jamais la photo les intéresse, il faut qu'ils puissent la sortir sans galérer.
Ouais,
il faut qu'ils puissent la mettre sur un disque dur, il faut qu'ils puissent la mettre sur un fichier, sur un dossier, sur leur truc en ligne. Il faut qu'ils puissent... C'est un outil de travail pour eux.
Et puis une autre question, quand je relance des directeurs de casting, j'ai tendance à mettre actualisation ou nouvelle, même si j'en ai pas, ou nouveaux outils, ou je sais jamais trop quoi mettre en fait.
Les mails de relance au directeur de casting, c'est pas un mail pour simplement rappeler qui tu es et te rappeler au bon souvenir du directeur de casting en montrant ta bouille et tes nouvelles démos et te donner des nouvelles, surtout si t'en as pas. Créer du lien avec un directeur de casting ou avec quelque professionnel que ce soit, ce n'est pas en se montrant, c'est en réagissant sur leurs actus. Par exemple, c'est en réagissant sur une actu qui pourrait les concerner. Par exemple, sur un réalisateur, quand si tu dois recréer du lien avec un réalisateur, tu as vu un film, tu as lu un roman, tu as vu une expo qui est exactement dans la thématique de son dernier film ou de son prochain film, ou tu as entendu une interview, ou tu as lu quelque chose. Voilà, créer du lien entre vous et votre interlocuteur. Donc, faut créer le lien. Et le lien entre vous et ton interlocuteur, ça ne peut pas être « regarde-moi ». C'est pas un lien, ça.
Moi, j'aime pas du tout le terme « relance ». En fait, sûr que c'est un truc pénible. On a l'impression que c'est un truc qu'il faut faire absolument et qui n'a pas un but très intéressant. On a l'impression qu'il faut renvoyer de façon rythmée. C'est tout sauf ça.
C'est Ah oui, je mets jamais relance. Relance. Mais c'est vrai que c'est affreux.
Et c'est la façon dont tout le monde en parle.
C'est-à-dire je suis d'accord.
Alors que comme tu es avec des amis et que tu leur demandes des nouvelles ou que tu prends des nouvelles ou que tu rebondis sur la dernière conversation que vous avez eue ensemble ou que tu rebondis sur leur actu ou que tu leur envoies les tiennes parce que ça a un lien avec ce que tu connais d'elles, bah tu fais pas une relance par rapport à tes amis. Donc effectivement, je trouve que ce terme est totalement faux. Vous n'êtes pas là pour faire des relances aux gens. On est vraiment là pour créer du lien, continuer la conversation. Rebondir sur ce qu'on voit, sur ce qui nous rapproche, sur ce qui est, sur ce qu'on a pu comprendre ou ce qu'on trouve qui nous rapproche de nos interlocuteurs, interlocutrices. Et si on va les voir, c'est parce qu'on a des vraies choses à leur dire et pas juste embauche-moi.
C'est un autre état d'esprit, en fait.
Ouais, il faut vraiment s'intéresser aux gens que vous souhaitez, avec lesquels vous souhaitez discuter pour pouvoir trouver les points d'accroche, en fait.
Là, on a une question, du coup, comment fait-on pour annoncer nos news ou leur montrer des choses? Mais en vrai, si vous avez créé du lien avec les gens, leur montrer des choses, ça devient simple. Ça devient parce qu'il y a une projection, ça devient parce que c'est une nouvelle sortie sur une plateforme, ça devient parce que vous finissez, salut, comment tu vas, suite à la fois qu'on s'est vu, je t'avais dit que j'étais sur ce truc-là. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est bouclé. Tiens, si tu veux, je te montre en exclusivité avec un code Vimeo et tu peux le voir que pour toi. Tiens, regarde, j'ai fait mes nouvelles photos. J'aimerais bien avoir ton avis. Je t'en avais parlé la semaine dernière ou il y a 3 semaines, etc., etc.
Et si vous les connaissez pas, ça peut être, vous allez leur envoyer ce que vous avez fait ou ce que vous voulez leur montrer parce que vraisemblablement, au vu de ce qu'ils font eux, ça peut les intéresser. Soit c'est le même sujet, soit c'est le même code de jeu, il peut y avoir plein de bonnes raisons pour lesquelles on envoie. Après que vous envoyez des choses qui sont totalement standards à un certain nombre de personnes, parce qu'on va pas attendre forcément d'avoir quelque chose en commun avec les gens pour leur écrire ou qu'il y ait une interaction première qui fasse le démarrage, mais tous ceux vraiment avec lesquels vous vous dites que ce serait intéressant de se rencontrer parce qu'on a sûrement des choses à échanger et peut-être voir travailler ensemble. Ceux-là, vous avez des vraies bonnes raisons de les interpeller ou de leur envoyer ce que vous faites, vous. C'est bien pour leur montrer quelque chose qui est en correspondance avec ce qu'ils font, eux, et c'est ça qu'il faut pointer, en fait. C'est là-dessus que vous allez mettre l'accent, oui.
Oui, en fait, moi, je me posais la question parce que j'ai le même cas de figure entre les directeurs de casting en tant qu'actrice et les journalistes en tant que réalisatrice. Je remarque que j'ai des journalistes qui sont venus vers moi pour mon film, qui ont publié des choses... Et après, quand j'ai gardé contact et je leur ai dit, tiens, il y a ça comme nouvelle, et il y avait vraiment des trucs, genre là, je rentre d'un colloque à Angers, etc. Il n'y a plus de nouvelles qui me sont données. J'ai l'impression que dès qu'il y a une demande, et en plus, ça me met dans une posture que je déteste, dès qu'il y a une demande, tout le monde disparaît. Et là, récemment, par exemple, j'ai fait des vidéos dans le Sinaï avec une prof d'arabe parce que je me suis dit, je vais relancer ma carrière d'actrice. ma bande démo est trop vieille. Et du coup, on a tourné des scènes en impro et j'ai 7 ou 8 scènes dans différentes langues. Je remarque que j'envoyais à un directeur de casting en Jordanie qui à chaque fois allait liker. Et à partir du moment où je lui envoie un message plus perso en lui disant « Tiens, j'ai fait des vidéos comme tu as pu voir parce que je veux essayer de voir s'il y a des rôles au Moyen-Orient ou ailleurs. J'espère que tu vas bien. » Le mec n'a plus liké, ne m'a plus jamais répondu.
Mais oui, mais en vrai, c'est si tu lui envoies les messages perso, les journalistes pour reprendre sur les journalistes, est-ce que tu as rebondi sur un de leurs articles entre deux fois où tu les as contactés? Est-ce que tu as rebondi toi sur un de leurs articles? Est-ce que tu as tenu le lien en vrai
entre les deux
fois où tu les as sollicités? Est-ce que tu as tenu vraiment le lien sur ce que la personne faisait, sur les endroits où il a pu aller, sur un article qui pouvait être intéressant, qui n'avait rien à voir avec ton métier, enfin avec tes thématiques à toi, tu vois?
Parce que lui, visiblement, en te likant, il te suit.
Lui, il te suit, il suit ton travail.
Il like pas que tout que ce que tu mets sur ton boulot et toi, il te suit, regarde ce que tu fais, machin. Est-ce que toi, entre le moment où tu lui demandes d'écrire un article pour ton film et le moment où tu lui dis que tu as repris les cours et que tu vas venir en tant que comédienne sur le machin, finalement, tu regardes pas ce qu'il fait. Tu lui demandes qu'il regarde ce que tu fais toi et qu'il s'intéresse à ce que tu fais et qu'il s'occupe de ton cas pour t'aider à avancer dans le truc. Il y a un moment donné, c'est
effectivement. Ça peut pas aller que dans un sens, en fait.
Là, ça va que dans un sens, au final.
Il faut vraiment alimenter le moulin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous pouvez pas avoir un réseau de 500 personnes. Hein. C'est pas possible.
C'est comme avec vos amis. À un moment donné, si t'arrêtes pas de demander des services à tes potes, au bout d'un moment, ils sont plus là, quoi. Non. Ils sont en marre de te rendre service tout le temps.
Ouais, mais tu vois, c'est des trucs, par exemple, les journalistes auxquels je pense, c'était par rapport au Paraguay, où c'était, je suis quand même passée à la télé nationale pendant une demi-heure, ça a quand même été un thème qui a fait bouger, etc. Quand je relançais derrière, évidemment, c'est compliqué pour moi de suivre l'actualité de journalistes paraguayens, de savoir ce qu'ils écrivent, machin et tout. J'étais plus en contact direct avec la chaîne, par exemple. Et pareil, ça coupe. Et par rapport au fait de l'actualité, la fois dernière, il y avait un directeur de casting que j'aime beaucoup. Je vois un film où il a fait le casting, je le félicite, il me dit merci. Et le lendemain, j'en vois un autre et je n'osais plus lui dire. Je me suis dit, le mec, il va se sentir harcelé si tous les jours, je lui envoie un truc, quoi.
Bah là, t'attends 10 jours, t'attends une semaine, t'attends un mois.
Ok.
Enfin, oui, effectivement, si tu le vois tous les jours, ça fait bizarre. Et encore.
En même temps, si tu vois un truc et que c'est juste pour le remercier et que t'as trouvé ça.
Oui, super, et encore le lendemain, tu dis, ah bah dis donc, ça fait 2 fois que je te vois, je passe mes soirées avec toi, avec une blague. Bon, après, ça peut, évidemment, sur le ton de l'humour, tu peux essayer de faire passer la chose. Mais si jamais tu le sens pas, t'attends 10 jours et ça se passera très bien.
Okay.
Mais en revanche, c'est vraiment sur les journalistes, et je comprends que ce soit compliqué, mais c'est pas compliqué pour toi de le contacter quand t'as besoin de lui. Donc, si c'est pas compliqué pour toi de le contacter pour lui parler de ton travail, ça devrait pas être compliqué de la même manière pour savoir ce qu'il fait. Je te dis pas de suivre au quotidien, mais de temps en temps, tiens, en fait, qu'est-ce qui devient, lui? Tiens, où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était bien ce qu'il avait écrit? Et se repositionner, se reposer, et tout à coup, créer vraiment du lien.
Travailler dans ce milieu, et votre travail, c'est de rendre curieux les autres de ce que vous faites. En fait. Mais il faut que les gens apprennent un peu à vous connaître et il faut que vous appreniez aussi un peu à connaître les autres pour savoir si vous avez envie de travailler ensemble.
Mais si on prend un exemple concret qui me vient à l'esprit, il y avait une réalisatrice où j'avais vu un de ses films que je trouvais super, je suis allée discuter avec elle à la fin et je lui ai jamais dit que je voulais bosser avec elle parce que ça faisait trop, etc. Aujourd'hui, je la recontacte et je lui dis « Tu vas bien? Qu'est-ce que tu deviens ?» Bah, je trouve ça un peu…
Bien sûr. Bah, surtout, tu regardes avant si ce qu'elle fait. Si, ouais. Parce que si elle a fait 3 films depuis et que tu t'en es pas aperçu, c'est un peu moche.
Ça serait franchement très rapide.
Donc, puis, regarde d'abord sur ses réseaux sociaux où elle en est et ce qu'elle fait, effectivement, ou sur IMDb. Et puis après, si ça fait un bout de temps que tu l'as pas renvoyé, tu peux renvoyer un petit mot en disant, tiens,
je pensais à toi.
Voilà, excuse-moi, le temps file, j'ai pas vu passer le temps, on s'était croisé il y a 3 ans, qu'est-ce que tu deviens, enfin, où est-ce que t'en es, j'ai vu que t'avais fait des choses, mais je sais pas si t'as pu refaire un prochain film. Enfin, tu vois, en fonction de ce que tu trouves comme info, tu peux, et puis, le temps file pour tout le monde, parce que tout le monde bosse à droite, à gauche, sur des projets, diverses et variés, ça passe très vite. Donc, on peut très, très bien, c'est une façon très simple de reprendre contact avec quelqu'un, en disant tout simplement, où est-ce que t'en es? Le temps file à toute vitesse. J'avais beaucoup aimé le premier film que j'avais vu de toi. J'espère que t'as pu en faire d'autres. J'arrive pas trop à avoir l'info. Je suis pas mal, je bosse sur mes projets aussi. Et puis voilà, quoi. Et à l'occasion, retrouvons-nous, buvons un pot, voyons-nous. Mais ça, c'est complètement jouable. De la même façon que ce qui peut être aussi assez jouable. En juin, là, il y a plein d'AG. Et je me suis retrouvée à l'AG des scénaristes de longs métrages, enfin cinéma associé, parce que j'ai un ami qui est scénariste, qui pouvait venir accompagner, qui m'appelle, il me dit « Emmanuel, il y a cette soirée-là, est-ce que tu veux venir? Est-ce que ça peut t'intéresser ?» Je dis « Bah ouais, pourquoi pas ?» je ne connaissais personne dans ce truc. J'y vais. Bon, j'ai retrouvé quand même deux personnes que je connaissais au final. Tu vois, je ne pensais pas du tout voir là. Et en fait, tu rencontres plein de gens. Et ça, c'est des endroits aussi où les gens se retrouvent en petits comités et où on peut vraiment discuter de, bah, des problématiques qu'on a, qu'on rencontre. Toi, en tant que réalisatrice, tu pourrais très bien être à U2R, à la SRF, à je sais pas quelle structure qui regroupe des réalisateurs et réalisatrices où ils font de temps en temps. Là, c'était une AG. Moi, je suis arrivée donc après l'AG et parce que je ne suis pas scénariste. Mais du coup, ça vous permet de vous retrouver entre vous et d'avoir des moments privilégiés pour se revoir et justement, bah, consolider les liens. Alors, il y a la AFA pour les acteurs, mais il y en a d'autres. Il y a les actrices françaises. Il y en a plusieurs pour les acteurs.
Oui, il y a plusieurs trucs.
Il y a des choses comme ça aussi auxquelles il est bon de s'inscrire, ou si vous avez des amis qui sont réalisateurs ou qui sont scénaristes ou qui sont et qui n'ont pas pour autant fait. Moi, la scénariste que j'ai retrouvée que je connaissais là, c'est une scénariste de court métrage. Hein. Elle a pas fait le scénario du long métrage, du dernier long métrage, je sais pas qui. Discutez aussi avec les gens que vous avez autour de vous. Entourez-vous aussi, et ce sont des gens qui peuvent vous faire rentrer, vous amener dans des endroits où vous allez revoir des gens, rencontrer de nouvelles personnes. Et pouvoir vraiment créer du lien, parce que là, on est en petit comité, vraiment.
Et c'est vraiment ça, en fait. C'est le principe de, c'est le réseau qui, quand on dit que le réseau va vous faire travailler, c'est le réseau qui va vous aider à développer votre réseau. Et c'est par le réseau que vous allez pouvoir aussi consolider votre réseau. Tout ça est un espèce de, c'est une synergie qu'il faut mettre en place, en fait. C'est une synergie qu'il faut mettre en place, et après, elle s'alimente toute seule. Mais c'est sûr que le premier impulse, c'est à vous de.
Et c'est sûr que c'est plus facile d'envoyer un message ou un mail à quelqu'un en disant, bah, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Quand on l'a un peu croisé ou vu à différents endroits, c'est plus facile que si on l'a croisé qu'une seule fois et on va pas lui dire ça 4 mois après ou 1 an après, on dit, bah, tiens, coucou, comment tu vas, quoi. Non, c'est un peu, ça fait un peu bizarre.
Donc, mais bon, après,
mais servez-vous aussi de ces moments pro qui existent tout au long de l'année pour voir et revoir les gens, pour les croiser ou les recroiser. Et ça peut aussi vous donner l'occasion de, bah, tiens, moi, je serai à cet endroit-là, je sais pas si vous y passez, ce sera peut-être l'occasion de se revoir. Donc, de faire ce genre de, et qui est beaucoup plus professionnel, parce que c'est tout à fait normal de se donner rendez-vous, de se revoir dans une manifestation pro, plutôt que de se demander comment on va, alors qu'on se connaît pas tout à fait bien quand même.
J'ai suivi vos conseils il y a 10-15 ans, je ne sais pas. parfois on se confronte un peu à la réalité d'un système qui est que, bon, on a l'impression un peu de tenter des choses, mais que le système est plus implacable et qu'on s'y confronte un petit peu. Et en même temps, effectivement, c'est aussi comme ça que ça peut un peu ouvrir les portes. Et surtout, je trouve que ça a la qualité de rajouter de l'humanité, de la sincérité dans nos démarches, parce que sinon, on s'épuise. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des paramètres et donc du coup des tactiques, entre guillemets, qui ont évolué quand même en 15 ans et qui, c'est plus tout à fait, faut fonctionner autrement sur telle ou telle chose. Il y a des choses qui ont vraiment évolué?
Dans le fond, je trouve pas, en fait. Dans le fond, on est que sur des rapports humains et exclusivement sur des rapports humains. Et d'ailleurs, on l'a vu post-Covid, c'est-à-dire qu'avec le Covid, il y a plein de festivals qui se sont faits tout à coup en numérique. Dès qu'on est sorti du Covid, tous les festivals qui coûtent une blinde, ça coûte cher, les festivals, à y aller, à se faire héberger, etc. Boum, ça a redémarré direct. Et tout le monde s'est rué sur les festivals.
Et ils sont pleins.
Mais pourquoi? Parce que l'homme est un animal de meute et qu'à un moment donné, il faut qu'on se retrouve en meute. Et que ça, on peut pas l'éviter. Et c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de, on est une meute entre nous, virtuelle. Et c'est là, on arrive un peu à se retrouver, à se tenir au courant les uns des autres, etc., etc. Donc, dans le fond, je trouve pas que ça ait grand,
ça a toujours été.
Je pense que depuis que l'humain s'organise en société comme c'est, ça a toujours été comme ça. Et je pense que ça le restera.
Et puis même quand on travaillait en prod, c'était déjà ça. Enfin, il y avait plein de, il y avait plein d'événements qui étaient organisés pour que les gens se rencontrent, se voient, se revoient, se parlent. On a toujours besoin de ça, parce que là, même s'il y a des self-tapes aujourd'hui, les gens ont quand même besoin de vous voir en vrai après, on vous fait revenir en callback. On a vraiment besoin de vous voir et les gens ont besoin de se voir et de se parler. Parce que c'est vrai aussi que c'est de là que naissent les projets, c'est de là que naissent les envies de faire des choses ensemble. Les gens ont besoin vraiment de se voir et de se côtoyer et d'échanger et de se parler. Ça n'a pas changé.
Après, je trouve que en termes de tactique, je sais pas, mais c'est sûr que les réseaux sociaux ont vraiment influé. Il y a un autre truc, je trouve, moi, qui a bougé d'un point de vue acteur. Je trouve que les acteurs se sont vachement plus professionnalisés qu'ils l'étaient il y a 15 ans. Et dans leur démarche, et dans leur travail, et dans la prise en compte d'une exigence de jeu. Donc, du coup, comme tout le monde se professionnalise, ça augmente les exigences des directeurs de casting. Je me souviens au début, tout au début, quand on faisait les stages casting, au début, on avait les castings qui disaient, ah, c'est bien parce qu'au moins il savait son texte. Aujourd'hui, la question, c'est qu'un acteur qui ne sait pas son texte, ça n'arrive quasiment plus, en fait, les acteurs qui savent pas leur texte en casting. C'est un truc qui n'existe plus. Donc, on a vraiment, avant, il suffisait de savoir son texte et jouer à peu près juste sur la première prise et voilà. Enfin, déjà, il y avait quelque chose que le casting, tu tapais un peu dans l'œil. Aujourd'hui, c'est vraiment plus suffisant. Donc, il y a vraiment une exigence de travail. Et une exigence de discours, parce que finalement les castings voient beaucoup 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 d'acteurs, notamment par tous les stages, les ateliers, etc. Vous connaissez par cœur, et que du coup finalement ce qui va faire la différence, c'est le rapport humain. Donc en vrai, cette multiplication de rencontres un peu à la volée comme ça, plus ou moins payantes, parce qu'il y a aussi par les collectifs que ça se fait, a finalement amené que c'est les rapports humains qui vont privilégier, qui vont faire qu'à un moment donné, quelqu'un sera choisi, puisque à votre niveau, vous avez tous les capacités de tout jouer, enfin de tout jouer, de jouer ce,
hein,
ce pourquoi vous êtes appelé. Donc vous êtes tous capables de jouer. Donc après, qu'est-ce qui va faire qu'on va vous prendre vous plus que quelqu'un d'autre? Bah, c'est qu'avec vous, il y a eu un rapport humain. Sauf exception, évidemment, on trouvera toujours l'exception qui confirme la règle, où le réalisateur connaissait pas cette comédienne ou ce comédien, et que le casting non plus, personne le connaissait, et que finalement c'est lui ou elle qui a été pris, mais bah, bon. On connaît bien, évidemment.
C'est toujours une exception de temps en temps.
Mais d'une manière générale, c'est quand même ça qui primera. Donc, en termes de tactique, vraiment.
En termes de code de jeu, ça a bougé aussi.
Oui, les codes de jeu ont bougé. Mais en termes de tactique, pour développer sa carrière, je trouve qu'il faut. Je trouve qu'en fait, tout ce qu'on disait il y a 15 ans, ça reste valable, mais c'est encore plus valable aujourd'hui. Il faut être encore plus exigeant et encore plus pointu, parce que avant les prises de contact, elles se faisaient pas par mail, elles pouvaient se faire encore par courrier. Moi, je me souviens que les acteurs en 2005, je les coachais, et je leur expliquais qu'ils pouvaient envoyer des courriers par la poste. Hein. Aujourd'hui, on fait plus ça du tout, en fait. Donc, ouais, il y a pas, c'est la forme qui a un peu changé, mais franchement, dans l'ensemble, on... et tant mieux. Par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, ça commence peut-être à arriver en France, ou en France, on commence à un peu dégainer la self-tape. Je sais que dans les pays anglo-saxons, même en Allemagne, ils sont un peu à regarder beaucoup, un peu beaucoup à regarder les fichiers aussi d'acteurs et à passer des annonces. Et donc, du coup, ça dématérialise complètement la sélection d'acteurs. En France, on résiste encore avec ça.
Ouais.
Donc, c'est un peu, ça fait pester tous les acteurs français qui se mettent. Moi aussi, j'aimerais bien avoir ma chance d'être sélectionné sur Safetape. Et en même temps, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'à ce moment-là, on est sélectionné ou pas sur Safetape parmi 500 personnes. Et donc, le rapport humain n'existe plus du tout. Donc, c'est la contrepartie qui n'est pas forcément la meilleure.
Et puis, le choix d'un acteur, ce n'est pas que le jeu de l'acteur. Est-ce qu'il y a des changements de code de jeu et dans quel sens, nous demande Laure?
Ah oui, il y a des changements de code de jeu, oui. Alors, tu peux mettre le micro, par contre.
Putain. Non, c'est ce que tu as dit. Là, tu as dit qu'il y a des changements de code de jeu et je voulais savoir ce que tu voulais dire.
Ben, en fait, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup changé notre rapport à l'image. Là, je parle pas en tant qu'artiste et en tant que personne du milieu artistique, je pense que d'un point de vue sociétal, puisqu'on voit un naturalisme très clair. On s'est habitué à un naturalisme, des gens qui parlent directement, ils se filment, on les voit, enfin bref. Donc on voit très bien ce que c'est une scène jouée, enfin pas jouée, une scène de la vraie vie, en fait, la vie quotidienne filmée, on le voit. Donc fatalement, quand on décide de faire un film où on veut être dans l'hyper-réalisme, il faut que cet hyper-réalisme, on ait la sensation que ce soit exactement ce qu'on a vu sur Facebook ou sur TikTok la veille. Il faut que ce soit un peu... Donc, le code de jeu, on n'est plus dans une théâtralité du tout. Alors, ça arrive, il y a encore des réalisateurs qui sont dans ce code-là, mais il y a un hyper-réalisme qui est quand même vachement recherché. Et là où avant, on demandait, où les acteurs étaient vraiment dans le rôle de composition, ou étaient dans une image du rôle de composition, quand même, malgré tout, aujourd'hui, le commissaire ne doit plus jouer le commissaire, il doit être lui, et c'est avec lui qui sera commissaire, ou elle qui sera commissaire. Et donc, on essaye quand même, il y a un code de jeu qui tend à sortir des clichés, voilà. Et tout ça a une limite et tout ça ne se retrouve pas tout le temps. Mais quand même, je remarque chez les castings que c'est ça qu'ils cherchent en première prise, ou c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent le naturalisme de l'acteur, sachant que l'acteur, après, sera composé. Il saura faire,
c'est son métier.
Mais ce qu'on lui demande, c'est est-ce qu'il sait ne pas composer, est-ce qu'il sait être juste lui-même. Et ça, c'est une donnée avant que je trouve il n'y avait pas. Aujourd'hui, ils veulent vraiment, mais arrêtez tel que vous êtes, arrivé, trop de psychologie, lâchez ça, soyez vous-même, vas-y, donne-moi la scène, je veux te voir tel que t'es, te cache pas derrière un masque, blablabla, ça, on l'entend tout le temps, en fait, tout le temps. Quitte à ce qu'après, en troisième prise, ils cherchent justement à vous amener vers la composition, et peut-être qu'au tournage, ce sera la composition. Mais ils veulent voir votre potentiel à être dans le naturalisme.
La bande démo, est-ce que c'est toujours le référent? parlez des réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez important qu'on y soit présent, oui, mais du coup, de quelle manière? Est-ce qu'il y a un réseau plus qu'un autre? Et de quelle manière? Est-ce que c'est juste alimenté avec son actu?
Alors, tout ça pour les réseaux sociaux, le réseau qui est important pour toi, c'est celui où tu trouves tes interlocuteurs. Donc, en fait, en fonction de avec qui tu veux rester en contact ou qui t'intéresse ou de qui tu veux être vu ou suivi, tu vas décider de la plateforme. Ça, c'est assez simple. Après, dans le milieu audiovisuel, c'est vrai qu'on se sert quand même pas mal de Facebook et Instagram. Après, LinkedIn, c'est pour les entreprises. Donc, si tu fais de la pub, si tu fais du doublage, de la voix off, si tu fais tout ça, ça peut être... tu auras tous les studios qui seront sur LinkedIn et on y va pour ces raisons-là exclusivement. TikTok, c'est si tu veux aller chercher des gamins. Et puis, il faut avoir une certaine notoriété, je crois, pour que ce soit très... pour que ça fonctionne. C'est vraiment pour cibler et aller chercher des gamins très jeunes. Donc, les réseaux sociaux, ça va surtout servir à... puisque l'idée et votre travail, c'est de rendre curieux les gens de ce que vous faites. Quand on est curieux de quelqu'un, en général, on le googlise. Donc, on va taper ton nom sur Google. Ce qui est intéressant d'avoir, c'est ta fiche, c'est ton agent. Parce que comme ça, on voit bien que t'es acteur et ce que t'as fait et ce que tu fais. Et puis ensuite, les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté, c'est ce que t'as fait hier, c'est ou alors pas forcément ce que t'as fait, mais ce que t'es. Et on va aller sur le profil et en scrollant un peu, ça nous donne un peu une intuition de qui tu es. Ça nous donne un petit peu quelque chose de plus vivant que le CV photo bande démo. Après, le CV photo bande démo, il reste tout à fait nécessaire et on le trouvera sur les plateformes dédiées sur lesquelles tu es. Donc, du coup, on a tout ça, c'est un tout et un ensemble qui, chaque chose complémente l'autre et ça nous donne toujours plus de, normalement, ça doit nous donner un petit peu plus le contour de ce que tu fais aujourd'hui, de à quoi tu ressembles aujourd'hui, de sur quoi t'es, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te plaît, voilà. Et donc ça nous donne une intuition de quel artiste tu peux être.
Tout ça vise à rassurer. Ouais. En fait, c'est pour rassurer. Et puis les réseaux sociaux, c'est vraiment aussi pour suivre les actus. On en parlait juste avant, mais ça, c'est extrêmement pratique pour ça. Et puis, alors, pour le coup, là, c'est un peu tout le principe de la CRED. Hein. Je ne sais pas si vous avez tous bien suivi la CRED. La CRED, c'est des podcasts. Et on a fait toute une série de podcasts justement sur les réseaux sociaux,
Sur Instagram.
Et sur l'intérêt de la bande démo, etc., etc. Tous ces trucs-là, mais tous ces outils de com restent, et donc il y a les réseaux sociaux qui se sont rajoutés à l'outil de com. C'est un outil de com autant que c'est un canal de diffusion. C'est un outil autant qu'un canal, mais ça s'est rajouté.
Et puis c'est un moyen très simple de contacter les gens. Hein. C'est hyper facile, surtout sur Instagram où il n'y a pas de sas, pour contacter les gens, pour leur demander une adresse à laquelle on peut leur envoyer des choses ou pour garder un lien. C'est quand même extrêmement pratique. Là, on n'a vraiment plus besoin, effectivement, ni d'adresse postale, ni de numéro de téléphone, ni de. Donc c'est quand même. Et puis c'est des canaux sur lesquels on peut vraiment écrire comme on parle aussi. Donc il n'y a pas de protocole. Et ça, c'est agréable aussi.
En fait, vous pouvez avoir tous les outils comme du monde. S'il suffisait d'avoir une bande démo, des photos, un bon réseau social pour travailler, tous les acteurs auraient ça et ils travailleraient tous et vous seriez tous à Cannes, au César et tout ça et vous seriez heureux, on ne serait pas là. C'est pas le cas. Donc, c'est bien que ça se passe ailleurs. Si ça, cette chose-là suffisait, et encore une fois, si faire des stages casting et rencontrer des castings, parce que pour beaucoup d'entre vous, maintenant, vous avez tout l'arsenal, en fait. Vous avez tout. Et vous dites, putain, ça marche pas. Mais il vous manque ce dont on parlait au début, le rapport humain. C'est là la clé, elle est là. Et nous, quand on fait le point des acteurs qu'on connaît qui travaillent, qu'on suit depuis 10 ans ou 15 ans, si aujourd'hui ils travaillent, c'est pas parce qu'ils ont rencontré un casting. C'est parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont faites, qui se sont agrégées les unes aux autres, mais tout ça sur la base de rencontres.
Ils sont beaucoup, beaucoup sortis.
Et ils sont beaucoup sortis.
Et ils continuent de beaucoup, beaucoup sortir.
Et ils sont beaucoup allés en festival, ils sont beaucoup sortis, ils ont beaucoup investi. Et quand ils sont arrêtés de sortir, comme par hasard, ils ont arrêté de travailler.
Ouais, ça c'est vrai.
Et ils se sont paniqués en disant, je ne travaille plus, je ne comprends pas. Mais voilà. Et c'est avant qu'on démarre... je sais plus qui c'était avec Sophie, il disait effectivement on récolte ce qu'on sème, donc et ce que vous semez, c'est par les rencontres, c'est pas en envoyant un CV, une photo. Ça, il faut le faire, mais n'y comptez pas, enfin c'est tant mieux si ça marche, mais franchement c'est pas comme ça que ça marche.
Enfin, il faut le faire.
Oui.
Ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas.
Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis pour le moment pas en France, mais le truc de base d'envoyer ces outils aux quatre casteurs qui font des projets qui nous intéressent le plus, ça se fait pas, c'est trop.
Ça se fait, tout ça, il faut le faire.
Ça marche pas.
Mais n'en attendez rien.
Ça se fait, voilà, mais donc... ça tombe avec les 1500 mails qui vont recevoir le même jour, quoi. Enfin, les 150. Voilà,
c'est ça.
Pardon, j'ai mis un zéro de trop. Mais 150.
1500 dans le mois.
Voilà, 1500 dans le mois. C'est-à-dire que, bien sûr, ça se fait. Mais si tu les connais pas, ils vont pas ouvrir en premier ton mail, voilà.
Et puis quand bien même ils l'ouvriront, et peut-être qu'ils regarderont, sauf si vraiment ils ont un méga coup de cœur sur toi.
Ça peut aussi. Ça correspond pile poil. Mais après le truc, c'est il faut bien se rendre compte. Faites le test. Hein, vous partez en vacances, vous n'ouvrez plus vos mails. Vous rentrez, vous les ouvrez, vous laissez vos mails. Hein, vous rentrez, vous en avez 150 ou 250. Vous allez voir comment vous allez les trier, comment vous allez les regarder. Et t'as une demi-heure pour faire ton truc. Voilà. Tu regardes, c'est simple, les mails, quand on en reçoit beaucoup, on regarde d'abord qui les envoie, donc les adresses mail. On ouvre les adresses mail des gens avec lesquels on est en train de travailler, sur les projets avec lesquels on a. Après, on ouvre les mails des gens qu'on connaît. Et puis après, pour le reste, on verra bien, parce que de toute façon, comme on n'a que 20 minutes, on n'a pas le temps d'ouvrir le reste. Et puis c'est tout. Vous ouvrez un mois sur deux, vous allez avoir le temps que vous passez à ouvrir, à regarder, à lire, à répondre. Combien de temps ça vous prend? Vous allez voir qu'au bout du 20e mail, vous ne lisez plus tout. On lit en diagonale. Au bout du deuxième, vous ne regardez plus que les intitulés, effectivement, les raisons pour lesquelles. Puis quand vous voyez des trucs hyper flous, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de ceci, je vous envoie cela, les produits de l'été, les machins, tout ça, vous ouvrez pas, parce qu'on a l'impression que c'est de la pub. Et en fait, quand vous envoyez des mails où vous mettez ma dernière démo, mes dernières photos, c'est pareil, ça fait le même effet pub. Donc en fait, on n'ouvre pas si on ne vous connaît pas, parce que votre adresse mail ne nous dit rien. Donc, il faut le faire parce que c'est votre travail aussi. Mm-hmm. Mais effectivement,
c'est épuisant surtout.
Une fois qu'on est quelque part, il faut aller voir les institutions qui correspondent à votre métier, les associations d'acteurs, de scénaristes, de machin. Enfin, il faut faire toutes ces démarches pour vous faire connaître des gens, pour qu'à un moment donné, effectivement, quand vous envoyez un mail, vous fassiez partie des gens. Ah, on la connaît, on ouvre.
D'accord.
Ah, on l'a déjà vue. Ah, tiens, elle était sympa, elle était marrante, on a passé une bonne soirée. Effectivement, qu'est-ce qu'elle me dit? Donc, en fait, c'est totalement humain. Et quand on a une masse de choses qui arrivent, ou de gens, ou de messages, de trucs, on a exactement les réactions qui vont avec. C'est-à-dire, on part au plus pressé. Et le plus pressé, c'est les gens qu'on s'attend pas et on voit pour le reste.
Il y a une agence qui m'intéresse beaucoup. Et ils ont eu la gentillesse de me répondre que ce n'était pas possible pour le moment. Mmh. Pragmatiquement parlant, sur le marché français, à partir de combien de temps après la négative, je peux éventuellement les relancer?
Pardon. Ils t'ont envoyé un mail type pour te dire que c'était pas pour le moment? Enfin, pas pour moi.
Je pense que c'était une assistante qui m'a dit qu'ils avaient regardé les documents, enfin les vidéos et tout, et que pour le moment, ils ne pouvaient pas prendre de gens. Et voilà.
Dans 8 mois, tu reviens à la charge.
Ouais, ok.
Parce
que je pense qu'on est
lâché, ouais, tranquille.
Parce que là, j'avais 4 jours sur une série.
Ouais.
Mais la série, le tournage était étalé sur 5 mois, quoi. Donc là, j'avais un jour le premier mois, un jour le deuxième. Enfin, tu vois, après ça, voilà. Et il se trouve que vers la fin, moi, j'avais de toute façon, déjà, j'avais dit que je n'étais pas dispo à partir de telle date, parce que j'avais théâtre, nanana. Mais je n'avais pas encore les dates de répète, qu'il devait y en avoir pas beaucoup. Donc, du coup, je n'avais pas envoyé les dates de répète parce que je ne les avais pas. Et il y a une date qui était prévue bien avant. Et que de toute façon, moi, tous les jours que j'avais, c'était prévu bien avant. Donc, de toute façon, ça ne devait pas poser de problème a priori. Sauf qu'il y a une date qui m'ont déplacée 2 mois avant, justement proche du début des spectacles. Je me suis dit, on aura peut-être commencé là, mais je n'étais pas sûre. Mais je n'avais toujours pas les dates. Donc, sur le moment où ils m'ont déplacée, je n'ai rien dit.
Ouais.
Et il se trouve que quelques jours après, je reçois le planning justement des répètes et c'était justement un jour où ça était un peu craignos de manquer. Voilà. Donc, comme ce jour-là, j'avais qu'une seule scène, je me suis dit, est-ce que je tente de voir s'ils avaient déjà fait le planning déjà ou pas de cette journée-là, vu que c'était 2 mois après, qu'il y avait quand même du temps, pour voir s'il y avait moyen de moyenner que cette scène-là soit éventuellement faite avant la coupure déj ou pas, puisque moi, j'avais répète plutôt fin d'après-midi soir, quoi. Donc, pour pas déranger les gens sur tournage, j'appelle l'assistante réelle qui était dans les bureaux. Donc, je lui explique ça. Elle me dit, ah non, mais là, il faut que tu envoies un mail à la première assistante réelle en expliquant tout bien, par écrit, à quel horaire faut que tu sois, à quel endroit, etc. Et tu me mets en copie. Donc, je le fais. Donc, j'envoie toutes les infos à la première assistante réelle. Ça, c'était juste avant un week-end. Et qui me répond, mais là, par contre, en mettant tout le monde en copie, « Ah ouais, non, je te cache pas que c'est chiant. Bon, on verra. Bon, on en parle la semaine prochaine. » Le week-end se passe. Sauf que, en fait, en début de semaine, qui c'est qui m'appelle? C'était pas l'assistante réelle, c'est la directrice de casting, en me disant, ah oui, je suis très embêtée parce qu'il y a le directeur de production qui me demande de chercher une autre comédienne. T'es vraiment pas dispo tel jour? Alors que moi, c'était juste savoir si, éventuellement, il y avait moyen de moyenner, que si c'était pas possible, tant pis, j'étais pas, je me ferais engueuler au théâtre et puis c'est pas grave, quoi, parce que je suis passée les tournages en premier, quoi. Donc là, je me suis sentie un petit peu con. Donc je dis, si, pas de souci, je serai là. Voilà, mais du coup, j'ai eu l'impression de mettre du coup la Direcast dans une position de merde.
Alors non, qu'en plus, bah non, elle t'a appelé pour te prévenir, c'était plutôt sympathique, je trouve, de sa part.
Ouais. Non, Francesca, t'as fait aucune bourde dans l'histoire. Et c'est vrai que là, dans ces cas-là, c'est bien d'avoir un agent qui négocie ce genre de choses.
Ouais.
Donc, t'as pas fait de bourde dans l'histoire, t'as fait tout comme il fallait.
C'est plutôt bien que la Direcast a appelé pour te prévenir. Après, bon, moi, c'est moi, je me serais fendue d'un petit mail au chargé de prod en disant, est-ce qu'on peut discuter quand même avant de chercher quelqu'un d'autre, merci. Enfin, je l'aurais appelé pour lui dire en direct, parce qu'il y a un moment donné, ça ne se fait pas quand même. Et voilà, mais t'as pas du tout fait de bourde, non? Tu as fait exactement ce qu'il faut
faire. Tu as fait ce qu'il faut faire, tu as appelé d'abord la prod qui t'a envoyé vers l'assistant réel. Donc elle a fait son taf parce qu'il n'y a que l'assistant réel qui peut savoir le plan de tournage, ouais. Comment ça va se goupiller, c'est le matin, l'après-midi,
et soir. Et oui, souvent ils essayent quand même, s'ils peuvent changer, ils le font, et voilà, il n'y a pas trop de problème.
Si c'était à refaire, refais-le en tout cas.
Et normalement, c'était au chargé de prod de t'appeler en disant « Écoute, ça pose un problème effectivement, est-ce que tu es dispo ou pas dispo, sinon on cherche quelqu'un d'autre. » Ça aurait dû être comme ça. Ça aurait pas dû être le directeur de casting qui t'appelle pour dire « Attention, ils sont en train de chercher quelqu'un d'autre. » C'est le seul truc. Du coup, tu l'as fait.
Ouais.
Ce sera bien, une fois que le tournage sera fini, à un moment donné, que tu lis, que t'en parles quand même avec le chargé de prod. Il faut bien comprendre dans ce métier qu'on ne respecte que les gens qui se font respecter. Donc, c'est important pour toi d'aller voir le chargé de prod qui va gentiment, hein, tout à fait sympathiquement, mais j'aimerais bien qu'on reparle quand même de la façon de faire, parce que quand il y a un problème sur les plannings, j'aurais bien aimé que ce soit toi qui m'appelle, c'était à toi de m'appeler pour me dire que ça ne pouvait pas être changeable.
Si tu n'arrives pas à lui dire comme ça, tu dis « je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas appelé ».
Voilà, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire, parce que après tu cherches quelqu'un d'autre alors qu'on n'en a même pas discuté. Ou alors, quand j'ai signé mon contrat, tu avais qu'à me dire que c'était comme ça et qu'il n'y avait pas d'autres dates possibles et qu'on ne changerait rien.
Tu avais signé un contrat d'ailleurs ?
Ouais.
Mais ouais. Sur le contrat, il y avait les dates, il disait quoi ?
Bah, du coup, c'était les toutes nouvelles dates, dont celle-là qu'ils avaient changé, parce que du coup, le contrat, j'ai signé le premier jour, en fait.
Ouais, classique.
Mais j'ai après, pas d'avis, j'ai pas négocié.
Ça n'empêche que c'est important pour toi d'aller en discuter avec le chargé de prod.
Ouais.
Sympathiquement, t'as planté personne, t'as tout fait dans le bon sens. C'est bien que ça revienne dans le bon sens.
Alors, du coup, je vais peut-être pas attendre la fin du tournage, parce que la fin du tournage, c'est juste avant les vacances. Donc après, il n'y aura plus personne.
T'as tourné ou pas?
Moi, ça y est, moi, j'ai fini de tourner.
Ah bah oui, tu peux.
Donc, tu peux vraiment y aller. Ouais.
Oui, tranquille.
D'accord.
Sauf s'il y a un pot de fin de tournage auquel tu seras, mais...
Ouais.
Et du coup, par rapport à la directrice de casting...
Tu la remercies.
Tu la remercies.
Tournage, en fait, non. Donc du coup, j'en ai pas parlé, mais je sais pas du coup si c'est bien de revenir dessus ou pas.
Bah non, tu lui dis, tu peux lui renvoyer un petit mot en disant, ça y est, ma journée de tournage s'est faite, super journée, encore un grand merci à toi de m'avoir pensé à moi et de m'avoir alerté sur la problématique de planning. Merci beaucoup.
Parce que c'était très gentil de le faire.
C'était super gentil de le faire. Elle aurait très bien pu chercher un autre comédien et tu serais fait éjecter en 2 secondes. Mais franchement, ça se fait pas du tout, ça. Ça aurait eu un agent, franchement.
Ah oui, non, là, j'ai bien vu justement le deux poids, deux mesures du niveau des acteurs. Bien sûr.
C'est très clair. Donc,
il y a beaucoup de bourdes à pas faire, hein.
Mais c'est pas
du tout. Non, mais t'as pas fait de bourde, franchement.
Absolument pas fait. Quand ça coince sur les plannings, c'est tout à fait normal de discuter, d'en parler, de voir s'il y a une possibilité d'arranger le truc. C'est tout. Tout le monde le fait. Donc, il n'y a absolument pas de problème là-dessus.
C'est par rapport à la bande démo. Je suis dans le cas où, en fait, j'ai tourné pas mal de courts-métrages l'année dernière qui sont en train de sortir là et dont je mets des extraits dans ma bande démo. Et les réals ne veulent pas que le lien soit diffusé parce que ça va être envoyé au festival. Donc, la bande démo, je ne peux pas la mettre ni sur les réseaux sociaux, ni sur rien. Et ça, jusqu'en janvier, février, mars 2024. Qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, je l'envoie en lien privé. Est-ce que vous me conseillez de pour les réseaux sociaux, par exemple, je sais pas, de faire des scènes ou de non, pour montrer des
non,
choses.
Non. Et les courts-métrages sont bien, tu les trouves bien, t'étais content.
Ouais, bien.
Mais pourquoi tu montres pas plutôt les courts-métrages qu'une bande démo?
Bah c'est pareil, je peux pas les montrer.
Non, mais avec un lien privé au directeur.
Ça, je peux le faire.
Non, mais ce que tu vas faire surtout, c'est de la promo pour ces courts-métrages.
Bah oui, bien sûr.
J'ai annoncé qu'ils sortent en janvier-février avec l'affiche du cours.
Ouais.
Et t'en parles à Donf, parce que t'as quand même beaucoup plus intérêt que les professionnels découvrent ta bouille dans ces courts-métrages-là à Angers, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui y vont et
ouais,
qui ont beaucoup plus de visibilité.
Ouais.
Que pas de spolier en essayant de faire passer ton truc avec un extrait de rien du tout, j'en filme. C'est vraiment dommage. Là, pour le coup, donc tu mets sur Vimeo en cachet avec un code, tellement t'envoies comme ça, voire t'envoies ta bande démo sans ces extraits-là pour l'instant. Mais
du coup, sans ces extraits-là, elle est un peu faible, quoi, tu vois.
Eh ben, n'envoie pas ta bande démo.
N'envoie pas ta bande démo.
N'envoie pas ta bande démo. Et si jamais on te demande, t'envoies un lien pour le court-métrage où t'as trouvé, c'est ça que t'as trouvé mieux. Mais en plus, sachez un truc, c'est qu'on s'en fout de savoir ce que vous avez tourné. On s'en fout de vous voir, en fait. On veut savoir que vous avez joué dedans. En vrai, quand vous, c'est la même chose. Enfin, moi, j'ai des acteurs qui me disent, ah, t'es pas venu me voir au théâtre. Je dis, mais j'ai pas eu le temps. Je suis désolé, mais je te connais. C'est bon. Je sais que t'es un bon acteur. En fait, on a besoin de savoir que vous avez joué dedans. On n'a pas besoin de vous voir dedans. Si c'est les gens qui te connaissent, ils t'ont vu. Donc, ils ont pas besoin de te voir dans un nouveau truc, de prendre ce temps-là. Par contre, savoir que t'as joué dedans, ça va les intéresser.
Du coup, j'ai pas cet outil-là, quoi. C'est ça que je voulais dire.
Ben oui, mais là, t'es obligé de respecter ce process-là et ne spoil pas le réel. Et l'idée de vouloir absolument montrer ce que t'as fait, toi, en tant que comédienne dans le film, est beaucoup moins importante que le fait de défendre le film. C'est exactement ça. Et quand l'affiche sort, tu en parles alors qu'il n'est pas encore sélectionné au festival. Et quand fais du buzz et les gens, ça va les intéresser de savoir que tu as eu des rôles dans des films, dans des courts-métrages, et c'est ça qui va un peu valoriser aussi. Valorise-toi à travers les
projets. Ça va leur donner envie de voir le court-métrage et dès qu'il sortira, les gens regarderont. Donc là, il y aura plus de visibilité.
La première question, j'ai un demi-micro, mais elle peut être répondue par oui ou par non. Est-ce qu'il y a une alternative à la bande démo? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envoyer genre une super scène qu'on aime bien, justement? Enfin, ça rejoint un petit peu la question d'avant.
Bien sûr. Je vous conseille d'ailleurs, quand vous récupérez des scènes, de les réenvoyer directement, surtout aux gens à qui ça s'adresse et à que ça peut intéresser.
Et donc, limite, si on trouve la scène très bien et la bande démo faible, on peut se contenter d'envoyer...
Ah oui. Il vaut mieux qu'ils voient un truc de 30 secondes, 45 secondes, une minute, qui est génial, plutôt qu'une bande démo de 3 minutes, qui est moins bien.
Ok.
Et par ailleurs, l'autre alternative, c'est le court-métrage. C'est un court-métrage de 5 minutes qui est vraiment bien, qui a un vrai univers. Là, j'ai un acteur qui a un super court-métrage, qui vraiment est pile poil dans la ligne de ce qu'il cherche, de ce qu'il veut. C'est exactement le rôle qu'il voulait. C'est tout ce qu'il voulait. C'est dans un court-métrage d'un pote complètement délirant, etc. Je dis, mais lâche ta bande démo, t'envoies ça maintenant. C'est tellement plus fort et tellement plus puissant. Et ta bande démo, tu la mets sur Vimeo. Si les gens veulent la voir, ils la verront. Mais c'est pas ta bande démo que t'envoies maintenant.
Il envoie un court-métrage de combien de temps là pour la
Là, il dure 5 minutes, 7 minutes, je crois. Bon, il a le premier rôle dedans, on le voit partout. Une scène ou un court-métrage valent parfois mieux qu'une bande démo et sera beaucoup plus intéressant en plus pour le casting ou pour le réalisateur, pour la production, parce qu'il découvre un réalisateur. Tout à coup, on découvre d'autres gens, donc vous alimentez la machine.
Et mon autre question, si je peux me permettre, c'était juste, moi, je bosse en tant que chroniqueur, journaliste, en tant que réal aussi, j'essaie d'avancer ces billes-là. Est-ce que via les réseaux sociaux, il faudrait que limite que je me crée un compte par casquette, pas parasiter le truc, ou est-ce que je peux vivre que sous ma...
C'est des chroniques, c'est quoi de ces chroniques?
C'est l'écriture, là, pour le coup, le lien entre guillemets artistique, c'est l'écriture, j'écris pour la télé, mais effectivement, y compris en plus Facebook, bon, moi je raconte pas forcément ma vie, mais forcément... J'ai l'impression qu'on peut m'oublier si je mets pas 90% de choses liées à la profession de comédien, quoi.
Bien sûr. Et le truc, c'est chroniqueur, j'ai l'impression que
c'est un truc. Ça dépend si c'est des trucs drôles, tu vois, si c'est des chroniques à la Meurice.
Oui, c'est vrai. Ça dépend de tes chroniques. Oui, c'est vrai.
Et Véronique Gallo, si c'est des chroniques comme ça, t'es acteur, c'est normal. En fait, t'es acteur, tu fais des chroniques.
Oui, c'est vrai.
Pour moi, ça va ensemble, en fait. Ça dépend ce que c'est que ces chroniques. C'est un travail d'acteur aussi.
Tu les écris ou tu les
Non, je les écris, non. Le truc que je les écris, c'est pour France 3, sa bonne presse, etc. Mais c'est toujours pareil de
les écrire. C'est la presse. Mais c'est des chroniques humoristiques décalées ou c'est des chroniques...
Un petit peu, oui. Enfin, pas que humoristiques, mais à la fois un peu drôles et à la fois un peu émouvantes. Voilà, c'est une rubrique hebdomadaire qui existe sur France 3 et je... Mais bon, ça ou autre chose, en fait. Hein.
C'est toi qui l'enregistres aussi ou pas?
Oui, c'est ma voix et c'est mon écriture. J'ai toujours peur que ça dénote autre chose.
Non,
j'ai peur de voir un peu la lecture, quoi.
Ça va ensemble, en fait.
Non, non, ça, non.
C'est une autre couleur, en fait. Non, ça me choquerait pas de l'avoir sur ton Facebook et je me dirais, oh, putain, il fait plein de trucs. Tout ça va ensemble, tu vois.
Oui, oui, oui.
C'est pareil pour Réal et Comédien, alors. Réal et Comédien, c'est pareil.
Ça va ensemble, ouais. Pour moi, ça va ensemble. Pour moi, ça va, oui.
Après, comme on l'a déjà dit et comme on l'a redit sur la crête, quand vous avez deux casquettes, faites attention à ce qu'il n'y en a pas une qui prenne le pas sur l'autre. Voilà. C'est-à-dire, si toutes les semaines, tu publies que de la chronique, et une fois par an, Comédien, on oubliera que tu es Comédien.
Oui, exact. Oui. Pareil pour le Réal. Si tout d'un coup, c'est de la réalisation, on va dire, ah, bah tiens, il est passé Réal. Et en fait, il faut bien alterner. Il faut vraiment. Voilà.
Faut qu'il y ait un équilibre.
Un bon dosage.
Merci à tout le monde pour cette bonne session de questions-réponses et à très vite pour la prochaine.